Christina Rodriguez avec nous. On va espérer qu'elle va arriver sans trop tarder. Alors, le titre de cette table ronde, c'est « Ange, Dieu ou démon ». Je ne suis pas sûre que tous mes auteurs soient très concernés, mais j'espère qu'on va trouver de quoi vous parler sur ce sujet. Est-ce qu'on peut commencer peut-être, quand même, Marie, allez, je vous sacrifie sur l'hôtel de Jacques. Le sous-titre de la conférence étant quand même « Bonjour les immortels ». Je pense que quand même, il y a de quoi dans vos romans trouver des gens angéliques, démoniaques ou immortels. Non, aucun des trois. Non,
aucun des trois.
Mais ils ont des ailes.
Ah, je pense que le parallèle est plutôt.
Alors, on va pouvoir faire la même conclusion sur les romans de Karina, parce que elle aussi, ces personnages ont des ailes, mais n'ont rien à voir avec l'image d'Épinal de l'ange.
Ce sont des extraterrestres qui viennent d'une planète. Tout le monde a des ailes, donc ce ne sont pas des anges et ils ne sont même pas immortels. Je suis désolée, on m'a forcé à venir.
My, I also don't read about angels.
Eh bien, merci beaucoup.
Au revoir. Oui, donc moi aussi, c'est pareil, je n'écris ni sur les gens, les anges, ni sur les dieux, ni sur les démons. Mes personnages n'ont pas d'ailes et en plus, ils ne sont même pas immortels.
I have been watching the final season of Battlestar Galactica though, and the Cylons have just destroyed. Oh, this is a spoiler.
never mind.
But it's relevant. We could talk about that instead.
Moi, je viens de regarder la fin de la dernière saison de Battlestar Galactica, donc je ne vais pas spoiler. Je dis rien. On peut parler de ça parce que là, pour le coup, ça, c'est en rapport avec le thème.
Bon, j'ai. À 10h du matin, un vieux programme de l'année dernière, non?
Paella! Donc là, tout ça dans le cyclotéton complet, dans un espace-temps parallèle.
Mesdames,
parlons des hamsters, peut-être que là,
essayons de nous concentrer un tout petit peu. Alors. La question est quand même. Vous avez quand même tous des personnages qui ne sont pas des personnages ordinaires. Vous choisissez d'écrire sur des personnages qui ont un tout petit peu plus que notre humanité quotidienne et qui sont donc. Allez, ils ne sont pas immortels, ils ne sont pas les anges. Et ils ne viennent pas d'une cosmogonie connue ou inconnue, mais ils ont quand même un petit supplément d'aile ou un petit supplément de plume qui les rend. Certainement pour vous intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on traite un personnage au lieu de s'occuper d'un ado de tous les jours avec ses problèmes de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un personnage un peu supérieur?
Alors moi en fait je rigole et tout ça, mais en l'occurrence dans le livre de Saskia, les Ankhidar, puisque donc les créatures dont il est question dans cette trilogie s'appellent les Ankhidar, sont présentées comme des créatures qui sont en gros parallèles aux humains, donc elles vivent ici simplement parmi nous, mais avec leurs ailes qui sont cachées. Mais ça date de. Voilà, c'est des cousins des humains, on va dire, en gros. Et ils expliquent dans le livre que la figure angélique, la figure des anges, est née parce que des humains ont vu des Ankhidar. Voilà, donc il y a quand même un petit lien. Maintenant, moi je voulais. La créature ailée, en fait, m'intéressait vraiment d'un point de vue basique sur le travail de l'écriture, sur la sensation et l'émotion, parce que j'avais envie d'écrire sur le vol, donc sur l'air, sur le vraiment sur la sensation, etc. J'ai oublié ce que je voulais dire.
Alors, Karina va nous dire pourquoi elle a choisi d'être ailée.
Alors, moi, il y avait tout simplement déjà le fantasme, le rêve. Fantasmagorique de l'humain de voler. C'est vrai que ça partait de. Je pense qu'on a tous fait des rêves la nuit, on rêve qu'on vole. Voilà. Alors après, on n'a pas forcément des ailes, parfois on sait juste qu'on plane. Mais je pense que ça fait partie quand même de quelque chose qui est très profondément ancré dans le désir humain. Et puis il y avait aussi. En fait, moi, c'est les personnages jusqu'à 16 ans, enfin ils sont deux hein, sur la planète Terre à avoir des ailes, parce que leur planète d'origine a disparu et ils ont été amenés là sans savoir. Il faut lire le livre pour comprendre qu'en fait, leur mère, on les a. des fécondations in vitro de ces embryons qui venaient d'une autre planète, et donc eux sont nés en pensant qu'ils avaient une vie parfaitement normale, des parents, ils vivent terrien, et à 16 ans, leurs ailes sortent une nuit, et c'est très douloureux, c'est très sanguinolent, et ensuite leur vie bascule et ils découvrent qu'ils ont la planète disparue dont ils sont originaires, qu'ils doivent ressusciter. Et donc on peut dire qu'ils ont une mission angélique, peut-être une mission de gardiennage de cette planète disparue et de ce peuple qui attend de renaître, que eux aient réussi leur mission. Mais ils ne sont pas des anges tels qu'on les voit dans la religion, la théologie, ils ne sont pas immortels, ils n'ont pas de pouvoir en dehors de celui de voler. Mais c'est vrai qu'ils ont cette mission de gardiennage, on peut relier ça comme ça d'une certaine manière. Moi, l'intérêt des ailes, il y avait déjà le fait qu'il y avait la métaphore du changement du corps à l'adolescence, avec ces ailes qui jaillissent, parfois dans la douleur, ce corps qui change, qui devient différent, étranger. Alors sans rentrer dans l'acné, les boutons, les trucs bizarres qui se passent quand on est en plein changement hormonal. Là, c'était vraiment cette métaphore totale du passage de l'adolescence, l'adolescence vers l'âge adulte, d'autant plus que quand les ailes apparaissent, ce sont des responsabilités qui apparaissent avec cette mission de sauver un peuple entier. Et donc là, on a le sens de la responsabilité, on tend vers l'adulte, on a des gens dont on est responsable, leur vie entre nos mains, et là, il y a un choix à faire. Est-ce que je reste un enfant et je refuse cette mission, ou est-ce que j'accepte de grandir et j'accepte mon état d'adulte? Il y avait ça, et je pense qu'il y avait autre chose. Et le regard de l'autre. Voilà, le regard de l'autre avec le corps qui change, avec la différence. Le héros, Zek, va avouer un moment à son meilleur copain qu'il a des ailes, il le cache, il a peur du regard des autres, il a peur de ce qu'on va lui faire si on découvre qu'il est différent. Et il a peur de la réaction de son meilleur ami, il a beau savoir que c'est son meilleur ami et qu'il peut lui faire confiance. Comment le regard de son meilleur ami va changer s'il lui avoue qu'il est différent? Donc il y a tous ces thèmes qui tournaient autour de la raison pour laquelle j'ai collé des ailes dans le dos de mon personnage.
Je me souviens de ce que je voulais dire en fait, parce que c'est un petit peu rapport avec le sujet de la concurrence, donc je saute sur l'occasion. Non, c'est qu'en fait, il y a quand même énormément de livres qui ont été écrits, notamment aux États-Unis, sur les anges, qui utilisent le panthéon classique, les archanges, Gabriel, avec tout ce panel qui s'ancre profondément dans la religion. Et du coup, quand j'ai...
Juste pour vous couper, Marie, c'est une tendance, notamment en jeune adulte, qui est aussi importante que ce qu'a pu être celle du grand empire.
Évidemment,
ça a été annoncé comme la nouvelle mode.
Oui, parce que je pense que, comme le disait Karina, d'un point de vue métaphorique, avec les ailes, on peut dire beaucoup de choses. Voilà. Et du coup, quand j'ai travaillé les misères de Saskia, je me suis vraiment efforcée de ne pas m'ancrer dans ces traditions-là, et de réinventer un univers qui soit complètement déconnecté de la religion et de tout ce qui a pu être écrit ou traité auparavant.
Et très bien fait. Donc, voilà. Christine, en travaillant un peu sur votre roman pour le lier au sujet de cette conférence, je me suis dit qu'il y avait quand même chez vous le choix de traiter un personnage humain mais surpuissant dans un premier tome, et dans le dernier tome, un personnage humain sans puissance, mais doté de pouvoirs officiels. Est-ce que c'était pour vous l'intérêt de traiter les deux modes de comportement hein?
Respond to. it took me by surprise. Yes, my first book, my main character is what's called a graceling. She has eyes that are two different colors, and a grace is a particular kind of gift. It could be anything. It could be working with horses. It could be fighting. It could be mind reading. Any human, real life human talent taken to an extreme. Could be a grace.
Alors, en fait, quand j'ai écrit le premier roman, Graceling, donc le personnage est un Graceling, et les Gracelings dans ce monde-là sont des humains
qui ont des yeux de deux couleurs différentes et puis qui ont développé un don. Mais ça peut être n'importe quel don humain qui est poussé à l'extrême. Ça peut être s'occuper des chevaux, ça peut être lire dans les esprits, ça peut être faire la cuisine. Donc voilà, le Gracie, il a juste ce talent qui est poussé à l'extrême.
My main character, Katza, has the grace of killing, so she is an extraordinarily powerful, physically powerful woman.
Et donc, Katza, mon héroïne, elle a reçu le don de tuer. Donc, elle est extrêmement forte, extrêmement puissante.
And then, my second book, I expanded the universe and created another world where... So you have regular animals, but then you have these beautifully colored animals, the same shape as our horses and our dogs and our mountain lions.
Et dans le deuxième roman, j'ai donc étendu l'univers avec un autre royaume dans lequel on avait des animaux qui avaient tout à fait l'allure d'animaux ordinaires, de chevaux, de chats, de chiens, etc. Mais avec des couleurs absolument extraordinaires, des jaunes, des rouges, des verts, des mauves, etc.
And the colorful creatures are called monsters, and they have a special power. First of all, they're extremely beautiful, and they have a special power to control your minds. So the predators, the mountain lions, and my only winged creatures are these enormous birds, these raptors. They stand in front of you and they mesmerize you with their beauty and they kind of take hold of your mind. And while you're standing there, all like, oh, it's so beautiful.
Alors, donc en fait, ces créatures de différentes couleurs, en fait, on les appelle des monstres parce qu'ils ont en fait un don particulier qui est le don d'hypnotiser par leur beauté. Notamment pour les prédateurs, alors les seules créatures ailées au passage qu'il y a dans mes romans, ce sont des rapaces, donc ces fameux rapaces monstres. Et donc, par exemple, un puma ou une créature puissante comme ça, colorée, va venir se mettre devant vous et alors elle va vous hypnotiser par sa beauté. Et quand vous êtes là à dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau !» Crac, elle vous saute dessus et elle vous bouffe ou elle vous fait la peau.
And my main character in that book is a woman who is a human-shaped monster. She has crazy colored hair and she's trying to cope with her own birthright, with her own power and figure out how she fits into the world.
Et donc, mon héroïne, c'est un monstre, mais qui, elle, a l'apparence humaine, puisque les monstres peuvent prendre toutes les apparences. Elle a des cheveux d'une couleur absolument extraordinaire. Elle, évidemment, sans le vouloir, elle séduit. Et donc, pendant tout le roman, elle se bat avec ce pouvoir pour savoir comment trouver sa place dans le monde et comment elle va pouvoir gérer ce talent-là, parce que... Quand elle passe, tous les gens sont absolument séduits par elle, avec des réactions absolument extraordinaires. Là, j'en raconte un peu plus. Mais voilà, soit ils sont séduits, tous les hommes veulent l'épouser, ou alors ils veulent la tuer. C'est-à-dire qu'elle pousse les réactions extrêmes des gens qui la voient.
And so then, as you said, when I sat down to write my third book, I realized that the person I wanted to write about was just a girl. She's 18, she has no special powers. She is a queen, so she obviously has some power, but in fact less than she might because she's being controlled by her advisors to a certain degree.
Et donc dans le troisième roman, je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire, de créer un personnage totalement humain. Donc finalement, l'héroïne du troisième roman, c'est une jeune fille de 18 ans qui n'a aucun pouvoir particulier. Enfin, si elle en a un, elle est reine. Mais ce pouvoir est quand même très limité par tout un tas de conseillers qui sont autour d'elle, parce qu'elle est très jeune, et qui limitent ce pouvoir-là de régner.
And it was such a different writing experience to write about someone who was just a regular girl. It was deeply different to me, to the extent that while I care for all my characters, it wasn't difficult for me to let Katza go and grace them, or to let Fire, the monster woman, go in Fire when it was time to release those books. But it was very hard for me to let Bitterblue, my young girl, go because I felt so much of a connection. I related to her so much more than I related to my magical power, my magical characters, and she felt like my daughter. I think I think Katsa and Fire are a little too sparkly to be my daughter, but Bitter Blue, I felt like I was throwing this poor young girl out into the world where, you know, throwing her to the lions, and I had to remind myself she's imaginary, worry about her. She's surrounded by amazing people, which makes it even harder for her, I think, to cope with her own ordinariness. But it was very, very different.
Alors, en tant qu'écrivain, je me suis rendu compte d'ailleurs que ça a été une formidable expérience de décrire ce personnage de jeune fille qui était tout à fait ordinaire, et ça changeait totalement des autres personnages que j'avais écrits. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte au fil de l'écriture que, par exemple, pour le personnage de Katsa ou pour le personnage de Rouge, j'avais vraiment eu aucun problème à me défaire d'elle au moment où le livre était paru. Je l'ai laissé aller. Ça a été extrêmement difficile pour le personnage de Bitter Blue, cette jeune reine, parce que je m'étais connectée à elle d'une certaine manière, et c'était un peu comme si c'était mon enfant. Et j'avais l'impression, en publiant le livre, j'avais terminé l'écriture, la chose m'échappait, d'abandonner Bitter Blue et de la jeter au lion. Et pour moi, c'était extrêmement difficile à vivre, c'était extrêmement difficile de couper cette connexion que j'avais créé avec ce personnage, qui était un être humain ordinaire, et dans lequel j'avais sans doute projeté des choses, ou dans lequel je me retrouvais.
Est-ce qu'on peut dire que rien ne vous empêche, tout en traitant des personnages extraordinaires, ou chargés de pouvoir, ou en tout cas qui tout d'un coup ont une transformation qui change complètement leur vie, est-ce que c'est intéressant peut-être aussi de proposer au lecteur de voir que, quel que soit le pouvoir qu'on a, les faiblesses sont là, et qu'il y a un revers à toute médaille, et que c'est pas parce qu'on vole, c'est pas parce qu'on est supposé être plus puissant que tous ceux qui nous entourent, que tout d'un coup on est plus performant ou plus heureux dans sa vie. Est-ce que c'est la faiblesse de l'être surpuissant, est-ce que c'est un thème qui vous intéresse?
Oui, bien sûr, parce qu'il est corrélé, enfin, sinon c'est du comics et c'est Superman, et encore, même Superman, il a un point faible, donc... Si on reste dans un travail d'écriture et de création de personnages qui est métaphorique et qui quelque part, malgré ses dons, reste humain, il faut lui créer des failles, il faut qu'il soit complexe, il faut qu'il ait des aspérités. Et ça passe effectivement par soit un apprentissage douloureux de ses super pouvoirs, soit... c'est créer des... Il faut qu'on puisse s'y identifier aussi en tant que lecteur, donc il faut qu'il soit... profondément humain. En tout cas, moi, c'est vraiment l'objectif quand je crée des personnages, même s'ils ne sont pas dans notre interface. Oui, c'est exactement ça, d'autant plus que mon personnage dans Lequel des livres mondes, il a vécu 16 ans comme un humain normal, il ne se doute absolument pas qu'il vient d'ailleurs, et quand il a cette révélation avec ses ailes qui poussent dans son dos et qu'il comprend qu'il n'est pas humain, et que sa vie est un mensonge, entre guillemets, il rejette. Il n'en veut pas, lui, il veut une vie normale, il est au lycée, il a ses potes, il est amoureux d'une fille, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va l'embêter avec des ailes? Qu'est-ce qu'on va l'embêter avec une mission? Un peuple qui ne connaît pas, donc qui ne connaît rien à sauver. Et pour lui, c'est pas sa priorité. Quoi. Au début, il se dit, mais là, on est en train de me demander de remplir quelque chose, mais j'en veux pas, je veux pas de cette responsabilité. Je veux continuer à mener ma vie normale. Donc c'est une faille, c'est des doutes, c'est de se dire, pourquoi moi? Le super pouvoir, les ailes, peuvent être aussi un fardeau, peut-être continuer comme quelque chose de négatif par le personnage qui les reçoit dans un premier temps. Après, il accepte, parce que forcément, on va dire qu'il s'adopte lui-même dans cette nouvelle identité. Il n'a pas le choix, il ne peut pas les enlever, ses ailes. Il y a un moment où il se dit, ok, il y a des gens qui comptent sur moi, je ne peux décemment pas les laisser tomber. Mais c'est un parcours pour lui qui n'est pas simple. Hein. C'est pas évident pour lui de se dire, oh, j'ai des ailes, allons-y, allons sauver le monde, attends, je décolle, j'y vais. C'est pas du tout comme ça que ça se passe pour lui. Donc il y a vraiment tout un passage de doute, de refus, de lui dire non, là vous êtes en train de gâcher ma vie, tout simplement.
Enfin, moi, qu'est-ce que ça, j'ai le souvenir d'un personnage qui justement est tellement puissant et avec une telle faiblesse que les autres peuvent l'exploiter. Est-ce que c'est cette ambivalence que vous avez voulu exploiter, enfin, présenter au lecteur?
Alors, definitely a balance you're looking for. A power dynamics are one of my favorite things to write about. And vulnerability is one of my favorite things.
Alors, effectivement, quand on parle de pouvoir, il y a ce équilibre à faire, et moi j'adore effectivement écrire sur la vulnérabilité de ce pouvoir.
I also, if I could talk about fire a little bit, because what everyone was saying made me think of my monster woman, fire. When you have an extraordinarily powerful person, you can also find strange, funny vulnerabilities for them to have. And fire has a very particular physical vulnerability.
Et en fait, ce que les deux autres auteurs ont dit m'a fait repenser à une caractéristique de mon personnage rouge. Donc, quand on a vraiment un pouvoir extrêmement puissant, on peut aussi trouver des vulnérabilités très très particulières qui vont être liées à ce pouvoir-là.
Because one of the particular things that's a fact about my monsters is that monsters are happy to eat you, but what they really love to eat is other monsters.
Et par exemple, dans Rouge, eh bien, ces monstres-là, évidemment, ils sont absolument ravis de manger les humains, mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est manger les autres monstres.
So, it's actually a bit socially shameful for Fire that she loves the taste of monsters.
Et donc, socialement, par exemple, c'est pas du tout accepté que Rouge adore manger de la viande de monstre.
And also, monsters are constantly trying to kill her, to eat her, and monsters can smell monster blood. So every time Fire has her period, she can't go outside, because if she is outside, she is in terrible danger.
Et alors, une autre caractéristique de ces monstres, évidemment, c'est qu'ils peuvent... Ils adorent se manger, mais ils peuvent se sentir à distance, et particulièrement, ils sentent le sang de monstre. Et donc, Rouge se retrouve très très embêtée avec ça, parce que, par exemple, à chaque fois qu'elle a ses règles, elle ne peut absolument pas sortir, parce qu'elle est en danger de mort. Et donc, elle subit des attaques de monstres tout le temps. À chaque fois qu'elle va quelque part, les monstres la poursuivent, l'attaquent. Et c'est donc, finalement, une très très forte vulnérabilité pour elle.
So I always built a calendar for my books, but the calendar that I had to build for Fire was Fire's menstrual calendar. Because I had to know where she was going to be, and I had to figure out when do I want her to be in danger, and when do I want her to be safe, when can I move her outside, when is it safe for her to be inside.
Alors j'ai en fait l'habitude de construire un peu des calendriers pour mes personnages, et alors le calendrier de Rouge, c'était essentiellement son calendrier menstruel, parce que je me disais, bon voilà, alors où est-ce qu'elle va être à telle période? Alors est-ce que je la veux dehors en danger, ou plutôt est-ce qu'à cette période-là, compte tenu de l'évolution de l'intrigue, il vaudrait mieux qu'elle soit à l'intérieur, ou qu'elle soit dans une période où elle est moins en danger? Et finalement, c'est cet aspect-là qui a un peu guidé la construction de l'intrigue autour de Rouge.
Est-ce qu'on peut dire aussi que, puisqu'on parle d'anges et de démons, vos personnages, on l'a compris, sont loin d'être manichéens, est-ce que quand on parle d'anges et de démons, quand on décrit des personnages de telle façon, on n'est pas juste en train de parler de ce qu'est l'apparence? Je pense à un personnage dans un roman de Karina qui est d'une apparence parfaitement sympathique et joviale et généreuse, et qui finit par se révéler... Sans trop spoiler, être le vrai monstre de l'histoire.
Quand je rêve, c'est le méchant de l'histoire. En même temps, c'est le public, hein, donc il n'y a pas trop de spoil, il s'appelle June.
Pour les personnages, c'est bien pas.
Non, parce qu'on sait dès le premier chapitre.
Non, c'est pas pour les lecteurs.
Ah, pour le personnage, oui, parce qu'il y a une boucle temporelle. Alors, du coup, on part du début, on revit l'histoire, et la fin ramène au début du premier temps. Mais effectivement, c'est un personnage qui est tellement intéressant, c'est que dans le troisième tome, on a deux versions qui vivent en parallèle, et selon les choix qu'ils vont faire, ils vont aller dans deux directions différentes. Mais c'est un personnage que j'ai adoré écrire, même c'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus noir que ce que j'imaginais quand j'ai commencé à écrire. Et y a des gens qui sont venus voir, mais je me déteste, il est horrible et tout. Et moi, j'ai trouvé que c'était un bonheur à écrire, un personnage qui peut être à la fois tellement parfaitement beau, classe, tiré à quatre épingles, un artiste reconnu qui a un talent fou, et qui en même temps a cette noirceur d'âme qui va le mener sur des chemins qui sont de plus en plus profond, dans quelque chose de noir, d'horrible. Et en même temps, il y a cette autre version de lui qui existe dans un autre temps temporel. Et cette version de lui, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va finir comme lui? Comment les deux vont évoluer? Et ça, ça a été vraiment intéressant à exploiter, justement, ce côté. J'aime bien, dans mes histoires en général, je trouve que un méchant, et c'est jamais une caricature du méchant, je suis vraiment méchant et je suis rongée jusqu'à l'os par la méchanceté. Tout comme le méchant, le gentil peut pas être super gentil, on n'est pas dans Disney, les petits oiseaux, tout ça. Et moi j'aime bien faire des teintes de gris, c'est-à-dire que mon méchant, j'aime bien aussi quand on arrive à s'attacher avec quand même d'une certaine manière. Mais j'aime bien aussi quand on arrive à avoir le côté peut-être parfois un peu sombre d'un héros. Et là, avec ce personnage-là que j'ai décrit en deux versions, c'était vraiment intéressant d'exploiter cette idée en joue démon, qui est Moon vraiment.
Alors, on m'a trouvé pourquoi vous étiez lagré là.
Alors, dans Saskia, en fait, les Enkidars sont un peuple en guerre, désunis, avec d'un côté les faucheurs dont la mission, dont une des caractéristiques intrinsèques, c'est pas une mission, c'est la façon dont ils vivent et se nourrissent, c'est de prendre l'âme des morts et de l'autre côté, les gardiens qui, eux, sont chargés de défendre les vivants et de justement faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Et Saskia, quand elle découvre ça, elle est persuadée qu'évidemment les faucheurs sont des monstres et que les gardiens sont les vrais anges de l'histoire. Et puis effectivement, ce côté un peu clinquant et caricatural va s'émietter et se déliter quand elle va se rendre compte que prendre l'âme de quelqu'un, c'est garder ses souvenirs comme un trésor. Et donc, c'est aussi la découverte qu'il n'y a pas du blanc et du gris, mais que les choses évidemment sont plus complexes, comme dans la vie de tous les jours, quoi. Et puis, dans la fille sortilège, c'est même le point de départ. C'est-à-dire que quand j'ai voulu lancer dans l'écriture de cette histoire, l'idée c'était, j'ai envie d'écrire l'histoire d'une fille qui déterre des cadavres. C'est pas super ragoûtant au départ, et mon challenge, ça va être de montrer que. Elle est super et qu'on faire en sorte que le lecteur l'aime, alors qu'a priori c'est pas tout à fait gagné, quoi. Donc aller au-delà, creuser et encore une fois créer des aspérités.
Et est-ce que c'est pas un petit peu votre, je vais mettre des guillemets autour de rôle, mais en tout cas votre objectif ou votre choix quand on écrit du young adulte principalement, en dehors de parler de l'altérité, du changement de corps, du passage à l'âge adulte, c'est aussi de parler de tout ce qu'il y a au-delà du gris et de tout ce qu'il y a au-delà des apparences.
I don't write for anyone in particular. I think when you write, no matter who you're writing for, that's an interesting approach to take.
Oui, personnellement, moi, j'ai pas l'impression d'écrire pour quelqu'un ou pour un public particulier. Quand j'écris, en fait, j'écris ce que j'ai à écrire et rien de plus.
I guess actually, yeah, that's not entirely true. I write for myself.
Oui, en fait, c'est peut-être pas tout à fait vrai parce qu'en fait, au départ, j'écris pour moi.
And I think I write for myself at a young age and for myself at the age I'm at now.
Et je crois que j'écris pour moi tel que j'étais quand j'étais petite, et j'écris aussi pour moi tel que je suis aujourd'hui.
And what I've been thinking as I've been listening to what the others have said about how, you know, for example, my graces, these gifts that my characters have, some of them are completely harmless, some of them are useless, like the ability to speak backwards.
Quand je pense aux dons qu'ont mes personnages, certains sont assez inoffensifs, d'autres sont absolument inutiles, comme la capacité à parler à l'envers.
But many of them can have the potential to make you extremely powerful, and some of my characters are a little too tempted by that power and take it in a bad direction, and some of them really struggle with how to be responsible with their power in the world.
Et donc d'autres, par contre, sont tellement forts qu'ils peuvent donner un pouvoir que l'individu qui possède ce pouvoir peut être tenté de faire évoluer dans une mauvaise direction et s'en servir à mauvais escient, tandis que d'autres personnes avec ce même pouvoir vont essayer d'affronter la responsabilité que c'est que porter ce pouvoir et d'essayer d'en garder le contrôle et de faire en sorte qu'il reste dans une bonne direction.
And you reminded me perhaps to finally throw a legitimate devil, I suppose, into the conversation. My main villain in two of the books has the grace of telling lies that people will believe. And so no matter what he says to you, you will believe it. And he decides to use this to make himself extremely powerful, to abuse people, to just, he uses it to become a king of terror.
Oui, et finalement, en entendant les autres parler, et notamment à propos du côté plutôt démon que ange, je me suis rendu compte que si, finalement, peut-être qu'il y avait un rapport au fait que je sois ici, parce que notamment le personnage de méchant, notamment qui apparaît dans deux des romans, est en fait un personnage qui est un graceling et qui a lui le don de dire des mensonges et de se faire, et que les gens le croient. Et finalement, il va pousser ce don à l'extrême, puisqu'il va arriver à manipuler un pays entier, et il se sert de ce don pour acquérir le pouvoir absolu.
And I think I've actually gotten off track from your question, but just one more thing about him. To go back to a previous question, one of the things that was also extremely different about writing about just an ordinary girl was the experience of writing this king left, this evil man. I write about him in the first book, and it was actually kind of fun to write about him. His evil was fun to write, because Katsa was strong enough to fight him. And in Fire, again, he's extremely creepy. He's torturing animals, and he's a disgusting, he's a little boy in Fire, he's disgusting. But again, it was kind of fun to write those evil scenes, because again, fire can take a wreck. But Bitterblue is just an ordinary girl, and Bitterblue is Lex's daughter. And it was writing those creepy scenes was horrible and dark and very depressing for me.
Et en fait, bah, j'ai un peu oublié la question là, mais j'ai une réponse à une question précédente qui me revient, qui était la question d'écrire sur une fille ordinaire. Et finalement, quand je repense à cette jeune fille ordinaire, Lek est son père. Et alors, dans le premier roman, on le voit, il est extrêmement puissant, mais Katsa, elle a la force, elle peut lutter contre lui. Donc finalement, d'écrire tout ce qui fait de méchant, c'est pas grave. Dans le tome 2, là, on le voit, il est enfant, il torture des animaux, il fait des trucs absolument méchants, il pousse des gens à se tuer par ses mensonges. Mais là encore, Rouge a le pouvoir de lutter contre elle. Mais dans le tome 3, finalement, Bitterblue, c'est la fille de Lek, et elle va devoir assumer le mal qu'a fait son père. Elle va devoir lutter contre ce pays qui est complètement empoisonné, qui a été empoisonné pendant des années et des années par cet homme. Et là, d'un coup, ça devenait horrible de montrer les côtés pervers et mauvais de cet homme par rapport à cette jeune fille qui avait été une enfant très fragile et qui avait souffert.
And the last thing I'll just mention is that readers occasionally ask me if I'm considering writing a book from Lex's point of view. And to which I respond, no. My mental health is too important to me. I will not write a book from Lex's point of view.
Et donc ça m'évoque des questions que certains lecteurs me posent parfois, qui serait, est-ce que vous auriez envie d'écrire un livre, là pour le coup, d'écrit du point de vue de Lek? Et moi je réponds toujours non, parce que je tiens à ma santé mentale.
Est-ce que vous aimeriez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager, puisqu'on parle d'anges, démons et d'immortels, de créer des univers dont vous réécrivez la cosmogonie, dont vous réécrivez la religion, dont vous réécrivez les dieux, dont vous réécrivez les croyances? Est-ce que c'est quelque chose de tentant?
Sans aller, non, c'est pas tellement ça, mais c'est vrai que là, j'ai réécrit du Phoenix, qui est quand même une figure. Voilà, il y a une origine quand même religieuse de la résurrection, etc., mais je n'ai pas pris du tout dans ce sens-là. J'ai voulu créer une histoire d'amour autour du phénix. Donc j'ai complètement retravaillé, j'en ai fait quelque chose qui n'a plus aucun accent de religion, là, je suis plus du tout dans... Il y a beaucoup de parallèles avec le Christ, la résurrection du Christ, la résurrection du phénix, et moi je ne suis pas du tout allée dans cette direction. Et c'était intéressant de réinventer un mythe, de dire ok, j'ai ce mythe-là, j'ai cet oiseau qui meurt, qui renaît systématiquement de ses cendres, vie après vie, après vie, après vie, et qu'est-ce que je peux en faire de ça? Comment je peux réécrire cette histoire? Comment je peux me la réapproprier et faire de mon phénix à moi, qui s'écrit d'ailleurs le E dans le A, comme ça je me détache quand même du phénix de la légende originelle. Qu'est-ce que je peux faire moi de ce phénix? Quelle histoire je peux raconter? Pourquoi il existe? Et quelle est sa mission à chaque vie? Enfin, pas sa mission, mais il y a une quête en fait, des amants qui doivent se retrouver vie après vie pour reformer le phénix à chaque fois. Et donc c'était intéressant déjà de faire des recherches et de me rendre compte que finalement il y avait quand même des échos malgré l'impression que j'avais inventé une idée géniale, donc je suis extraordinaire, une idée hyper originale, et en fait mon phénix est constitué de deux entités, un homme et une femme, et dans la mythologie chinoise du phénix, le Feng Huang, il est constitué d'une entité mâle et d'une entité femelle. Alors je me suis dit, bah, finalement on n'invente rien, il y a quelque chose qui est là dans l'air, et j'ai utilisé toutes ces choses, toutes ces légendes, toute cette mythologie autour de cet oiseau pour essayer de recréer le mien avec un conte moderne, quelque chose qui est vraiment ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Et là, ça a été vraiment passionnant de repartir de zéro et de se dire, allez, je balaye tout et je reprends quelque chose à zéro et je crée mon phénix.
Moi, ce serait... Enfin, je propose de te dire, moi, je trouve ça assez fascinant, en fait, de réussir à créer un univers qui ait une cohérence... peut-être plus culturelle que religieuse, mais voilà, ça, parce que un monde il tient aussi, peut-être même avant tout, à ça, c'est-à-dire à sa culture, aux fondamentaux de sa culture, et réussir à bâtir quelque chose de cohérent et d'intéressant et d'original me paraît très très intéressant. Je voudrais juste rebondir, si possible, sur ce que disait Christine tout à l'heure par rapport à ces histoires de personnages, soit très méchants, soit très gentils, etc. Un jour, mon fils m'a dit une chose, il avait 5 ans à l'époque, et je me suis un peu pris une claque dans la figure, parce que c'était simplissime. Et en même temps, je trouve ça assez brillant, c'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais bon. Il m'a dit, en fait, pour les méchants, les gentils, c'est les méchants. Et c'est quelque chose auquel je pense très souvent quand j'écris maintenant. C'est-à-dire je suis d'accord, je rejoins Karina, moi j'aime beaucoup faire des méchants qui ne sont pas que méchants. Enfin, je trouve ça très intéressant de créer un personnage qui est une pure ordure et puis en fait on se rend compte que de son point de vue, il n'est pas tant que ça. Il a des vraies raisons d'agir comme ça, il a des vraies motivations et peut-être même qu'il est sincère. Je trouve que c'est des... Voilà, des chemins à creuser qui sont très intéressants au niveau de la psychologie. Et typiquement, dans La fille sortilège, il y a un personnage qui est vraiment répugnant, quoi, qui s'appelle Tamar, qui en plus est tout puissant, alors que Rin, l'héroïne, il n'y a rien, elle n'appartient pas dans la ville, elle vit avec des parias, etc. Et elle est à sa merci, et voir la domination qu'il peut exercer est vraiment atroce, avec sa propre fille, elle est énormément dans la manipulation. Il y a la limite de l'inceste, c'est pas consommé, mais il y a une relation qui est malsaine. Et en même temps, quand on lit le bouquin, on le comprend, et moi, c'est vraiment un travail qui m'intéresse et que je trouve super intéressant. Voilà.
Pour rebondir sur cette histoire du point de vue du méchant, je rappelle une des phrases très importantes qu'on peut garder tous en mémoire, c'est... pour la carotte, le lapin et le balacarné.
Exactement.
Quand même. C'est philosophique, je sais. Je crois que... Juste, pardon. Je crois qu'on peut tous rire, c'est froid. Pour en revenir à Katsa, moi, ce qui m'avait assez fasciné dans ce personnage, c'est le fait que la question qui se pose, c'est pas qu'elle puisse... elle est la seule à se poser la question morale du fait que ça soit problématique de tuer. Les autres, le reste du monde, l'utile pense simplement à l'utiliser, à faire d'elle un méta-assassin, un outil.
Je pense
et je trouvais ça intéressant de revoir quelle était la moralité selon la position où on se place, comme vient de le dire Marie.
Yeah, I think that that power can do that. It can make you think, well, now what is this that I'm able to do, and what is this? Then?
Spider-Man. With great power comes
and heavy lies the crown, sort of thing.
Donc effectivement, le fait de posséder un grand pouvoir, ça interpelle sur ce qu'on en fait et sur tout ce qui est le côté moral derrière, avec justement la célèbre motto de Spider-Man, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités.
I love this idea of that Camino was talking about, that taking old stories and finding your own turn on it. I can imagine. I was raised Catholic, and I have moved away from that in my life, and actually intentionally left religion out of these books. I thought I would try to create a culture with no religion and see how that was.
Alors moi j'aime beaucoup ce que Karina a dit sur la façon justement de retravailler un mythe ancien, de le recréer et de transformer et d'en faire autre chose. Moi personnellement, j'ai été élevée dans la religion catholique et puis ensuite je m'en suis éloignée, je m'en suis séparée. À tel point d'ailleurs que c'était pour moi un point d'honneur de ne mettre aucun élément religieux dans mes livres.
We have a phrase in English: you can take the girl out of the church, but you can't take the church out of the girl. It didn't even occur to me until after the book had been published that I was searching for the right word for these gifts for my character to have, and I settled on the word grace, which is. Since I was 7 years old, I know grace is a gift from God. I had to memorize that.
Oui, alors il y a une espèce de dicton en anglais qui dit on peut sortir une fille de l'église, mais on ne pourra pas sortir l'église d'une fille. Finalement, j'ai réalisé que après la sortie des livres, que, alors là c'est juste une question de traduction, que lorsque, en fait, les grace, mais ils ont en anglais des graces, donc la traduction française c'est un don, c'est pour ça que voilà. Mais en fait, mais le terme en anglais, a grace, c'est une grâce qui est un terme religieux, et j'avais utilisé ce terme religieux, normalement la grâce elle est donnée par Dieu.
So I think that it's impossible for us to stop being ourselves when we write, and consequently any sort of religious part of us or any history or any thinking is going to make its way into the books in one way or another. So it might not be an actual religious structure, a deliberate religious structure, but it's going to be there.
Et finalement, quand on écrit, on ne peut pas s'empêcher d'être qui on est avec son passé, avec tout ce qui a influencé notre vie. Et forcément, ça ressort d'une manière ou d'une autre dans nos livres. Et donc, bien que je n'ai pas voulu mettre d'éléments religieux dans mes livres, et bien finalement, c'est sorti quand même et c'est là. Et est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? Le sujet vous inspire. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu plus éclairé sur ce que c'est que
les anges et les démons ?
Les anges et les démons.
Oui,
c'est ça. Bon. Eh bien, si personne n'a question.
On a compris que c'est une question de point de vue.
Alors, je crois que le boulot est fait.
Ça fait déjà bizarre.
Merci à tous.